La 27e édition de la fête du cerf et de la crevette s'est ouverte hier à Boulou-Paris. Ce premier grand rendez-vous festif de la brousse calédonienne va se poursuivre tout au long de la journée. Clap de fin pour l'exercice Croix du Sud 2025. La clôture officielle s'est déroulée hier soir place des Cocotiers en présence du ministre des Outre-mer Manuel Valls et du nouveau commissaire de la République Jacques Billon. Le parti travailliste du Premier ministre Anthony Albanese a remporté hier les élections générales en Australie. 17 millions d'Australiens étaient appelés aux urnes hier. Un contrôle de police a mal tourné à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Un homme a été blessé à la jambe par un tir de policier. Les faits se sont produits alors que les policiers intervenaient pour mettre fin à un rodéo urbain. Le sport, le football, avec la suite ce matin de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1. Nouvelle défaite du Paris Saint-Germain qui s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Et puis on disputait hier le premier rallye de la saison en Calédonie sur les pistes de Tomo Valley à l'issue des 9 spéciales de la journée. C'est Kevin Bertoni au volant de sa Mitsubishi Evo 8 qui s'est imposé. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. La fête du cerf et de la crevette va se poursuivre aujourd'hui à Boulou-Paris. La 27e édition a été officiellement ouverte hier matin en présence de très nombreux élus calédoniens, mais aussi du nouveau commissaire Jacques Billon et du ministre des Outre-mer Manuel Valls.
C'est une belle matinée, d'abord parce que nous recevons le nouveau haut-commissaire. Il est juste débarqué de l'avion, M. Jacques Billon, qui a déjà pu assister à cérémonie patriotique avec le dépôt de la gerbe à Nouméa. Et puis, je crois que c'est un beau symbole. Nous soyons ici à cette 27e foire de Boulou-Paris, à cette fête de la crevette et du cerf, parce que ici, on est au cœur, au fond, de la Nouvelle-Calédonie, dans une commune où il fait bon vivre ensemble et on retrouve, au fond, toutes les origines qui font la richesse de la Nouvelle-Calédonie, toutes ces activités aussi économiques, artisanales, agricoles. Et c'est aussi un symbole de dire que la Nouvelle-Calédonie a un potentiel et que c'est à travers ce type d'exemple qu'on trouvera, je l'espère, le chemin de la sagesse et de l'intérêt général. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux d'être là.
La fête du cerf et de la crevette est l'occasion, après une année 2024 très compliquée, de renouer avec les traditions des fêtes de brousse. L'occasion aussi pour les éleveurs et agriculteurs de se retrouver. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche.
Cet événement, c'est un événement majeur puisque c'est la première foire de l'année. C'est celle qui lance la saison des foires ici à Boulou-Paris. Et puis, c'est la mise en avant de deux produits iconiques de l'élevage et de l'aquaculture calédonienne, donc le cerf et la crevette, avec toutes les autres productions qui sont autour. Et tout l'artisanat de transformation. Donc oui, c'est un événement majeur pour notre chambre et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui.
Et depuis hier, 130 exposants sont présents sur l'hippodrome de Boulou-Paris pour ce grand rendez-vous qui attire toujours un public très large.
Super, c'est très bien. Tant qu'on n'a pas la pluie, c'est déjà le principal.
Venir regarder les animaux, lapins. Et la fin des chèvres et du cheval.
Balader, puis pour les enfants, surtout pour les animaux. Bah là, les cerfs, c'est la saison des cornemoles, les meilleurs.
Bah très bien, je m'attendais pas à autant de monde. Très convivial et il y a des bonnes spécialités à déguster. Bah là, je viens d'acheter des hachards de troca. Et après, bah, on va goûter les tartes à la crevette, les spécialités de cerf, etc.
Alors monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu chercher là?
Des crevettes. Ah, faut voir ça avec la chef.
Alors là, spécialement pour les crevettes et du cerf, s'il y en a. Après, on va regarder aussi les stands des partisans qui sont là.
On est venu chercher des crevettes. On en a pris 6 kilos. Puis faire promener les enfants pour se balader un peu, les sortir.
Des propos recueillis hier à Boulou-Paris par Kélinda Boicou. Bonjour Pascal Vittori.
Bonjour.
Monsieur le maire de Boulou-Paris, merci d'être avec nous ce matin en direct dans ce journal. On l'a entendu dans le sujet qui vient d'être diffusé. Tout le monde semblait content et satisfait hier à l'issue de la première journée. Le maire de Boulou-Paris est content de cette première journée également?
Bah oui, je suis très heureux parce qu'il y avait une très bonne ambiance, beaucoup de monde, et les gens sont restés même jusqu'à 18h. Ils avaient du mal à partir tellement ils se sentaient bien sur ce champ de foire.
Qu'est-ce qui fait le succès de la fête du cerf et de la crevette? Christophe Niotou le disait, c'est la première grande fête en brousse. C'est ça qui fait le succès ou il y a autre chose?
Non, c'est ça, c'est la différence des foires de brousse que les gens apprécient. Et puis c'est l'authenticité qu'on essaie de conserver avec beaucoup de produits locaux, beaucoup de produits artisanaux. C'est ce que les gens viennent chercher. Et puis c'est aussi la possibilité pour les gens de l'agglomération et les gens de brousse de se retrouver. On retrouve les amis, on retrouve la famille dans un cadre qui est agréable. Il faisait très beau hier. Et donc ça fait la joie des Calédoniens.
Le fait que cette fête de la crevette, du surf et de la crevette, ait été inaugurée en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et du nouveau haut-commissaire, Jacques Beillant, ça a donné une saveur un peu particulière à cette première journée hier?
Oui, je crois, parce que vous savez, ça a quand même été très compliqué cette année 2024, avec tous ces événements. Je pense que les Calédoniens ont besoin aujourd'hui de passer à autre chose, de reconstruire, de retrouver des perspectives. Et on a pu, pendant notamment l'ouverture, entendre des discours qui cherchaient l'apaisement, que ce soit de la part de l'État, de la part des coutumiers. Et je crois que c'est ce qu'ont besoin d'entendre les Calédoniens aujourd'hui.
La 27e fête du surf et de la crevette qui va se poursuivre aujourd'hui entre 8h et 16h. Pascal Vittori, je voudrais vous poser une question avec votre casquette de président de l'association des maires. Vous avez déjeuné hier avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Qu'est-ce qui ressort de ce déjeuner?
Bah d'abord, c'est toujours l'occasion pour le ministre de faire le point sur les discussions en cours sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, de tenir les maires informés, puisqu'ils sont en première ligne, au plus proche des Calédoniens. Et puis, c'est toujours l'occasion d'évoquer la reconstruction avec les financements apportés par l'État. L'état des dossiers en cours, qui est très très concrètement, qu'est-ce qu'il faut encore apporter pour pouvoir débloquer les dossiers qui ont été déposés. Et puis on parle toujours également des problèmes de sécurité. Là, on a évoqué aussi le problème des difficultés de la population, avec un nombre de chômeurs très important encore, mais surtout des gens qui sont sortis aujourd'hui du chômage et qui n'ont pas encore retrouvé un emploi ou une activité. Et donc on s'inquiète beaucoup parce que on voit le nombre de, notamment dans l'agglomération, de sans domicile augmenter. C'est d'abord un problème pour ces personnes, mais c'est aussi un problème parce que pour le reste de la population, parce que c'est des personnes qui errent dans les rues et qui peuvent parfois être menaçantes.
Pascal Vittori, vous parliez des problématiques liées notamment au chômage. Est-ce que la brousse est touchée également par ces problématiques? Parce que après les émeutes de l'an dernier, on se dit que c'est sur Nouméa, le grand Nouméa, qui a été le plus impacté. Est-ce que vous avez, vous aussi, en brousse, des problématiques liées au chômage?
Alors, on a des problèmes, bien sûr, parce qu'il y a des entreprises qui travaillaient sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et qui ont été impactées par la crise. Mmh. On a eu également la réduction des budgets des communes qui ont fait que certaines communes ont dû arrêter des prestations, et donc ça a eu un impact sur l'emploi. Et puis, pour les communes minières, il y a encore beaucoup de sites qui n'ont pas redémarré. Et ça, c'est un vrai souci pour les populations. Et puis, on a été touché également par les migrations internes, parce que ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes ont perdu leur emploi, soit dans l'agglomération nouméenne, soit du côté de VKP avec la fermeture de l'usine. Et donc, ils sont rentrés chez eux. Ils ont été accueillis par la famille, mais c'est toujours des situations qui restent précaires et difficiles.
Pascal Vittori, on revient à la fête du surf et de la crevette. Les portes réouvriront tout à l'heure à 8h à l'hippodrome de Bouloupari. Qu'est-ce que vous attendez de cette dernière journée, de la convivialité encore une fois?
Oui, mais vous savez, c'est toujours, ça se passe toujours dans une très bonne ambiance, très agréable, très familiale, très amicale. On n'a eu aucun incident sur la foire hier. Le gendarme, il n'a rien constaté. Et je vous dis, les gens sont restés jusqu'à 18h. Donc, ils retrouveront encore aujourd'hui les mêmes stands avec beaucoup de choix, beaucoup d'artisanat, beaucoup de dégustations possibles de produits locaux. Et puis pour les enfants, les manèges, les animaux, les balades à cheval, voilà. Et puis toujours la musique, les danses, les jeux. Voilà, de quoi passer une très belle journée encore.
Merci beaucoup Pascal Vittori d'avoir été avec nous ce matin dans ce journal, monsieur le maire de Bouloupari. On vous souhaite une bonne journée.
Merci,
merci Pascal Vittori. La fête du surf et de la crevette, on en parlait à l'instant. Il y a aussi d'autres rendez-vous pour votre journée côté festif, avec la fête également à Marée. La commune met à l'honneur, vous le savez, l'avocat depuis jeudi. Rendez-vous à la tribu de Netché pour assister au spectacle de chant et de danse. Et bien sûr, goûter l'avocat pour cette 32e édition. Notez que le ministre des Outre-mer sera sur place aujourd'hui. La fête de l'avocat à 2025 qui refermera ses portes ce soir à Marée. Et puis, une autre idée sortie pour les plus jeunes, une sortie pleine nature au parc zoologique et forestier. Deux histoires seront contées ce matin dans le cadre des Dimanches Enchantés. Premier conte à 9h30 et deuxième conte à 10h30, c'est au parc zoologique et forestier. La Nouvelle-Calédonie a un nouveau commissaire. Jacques Billon est arrivé hier sur le territoire. Il succède, vous le savez, à Louis Lefranc qui s'est envolé vendredi soir pour la Bretagne où il va prendre le poste de préfet du Finistère. Jacques Billon a marqué sa prise de fonction par une cérémonie de dépôt de gerbes. C'était à la Croix de Lorraine hier matin. C'est là qu'il a échangé ses premiers mots avec les élus et les représentants des autorités civiles et militaires de Nouvelle-Calédonie. Jacques Billon qui ne s'est pour l'instant pas exprimé publiquement. La fin d'une importante mission de collaboration entre les pays du Pacifique Sud, l'exercice Croix du Sud a officiellement été clôturé hier soir. Un impressionnant cortège de soldats de toute nationalité remplissait la place des Cocotiers, Charlotte Coulson.
Oui, nous en parlons depuis deux semaines déjà. Croix du Sud, c'est une opération qui pendant 12 jours réunit les forces armées de différentes nations, 18 cette année, dans un exercice de simulation de catastrophes naturelles. Pour cette édition 2025, les forces ont été déployées pour la première fois sur l'archipel de Wallis et Futuna, à 2000 km de nos terres. Dans un cas de figure fictif de séisme touchant le Fénois, ce sont plus de 2000 hommes, soldats et ONG qui ont été déployés, ainsi que 150 tonnes de matériel achalandé. Hier soir, le général de division Yann Latil, commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie, a animé la cérémonie de clôture. Elle s'est déroulée à la place des Cocotiers, en présence du ministre Manuel Valls et du nouveau haut-commissaire Jacques Billon. Yann Latil a notamment rappelé l'importance de cette opération pour le rayonnement de la France dans le Pacifique.
C'était un vrai défi pour nous de monter cet exercice. Vous connaissez les conditions dans lesquelles nous l'avons préparé. Nous étions extrêmement motivés de montrer que la crise calédonienne ne nous avait pas mis à genoux, qu'on était toujours en capacité de rayonner dans la région, avec une ambition renouvelée en se projetant à plus de 2000 km de la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Les enseignements principaux sont d'abord qu'on sait travailler ensemble. On le fait depuis de nombreuses années et on le fait au quotidien. Mais travailler ensemble dans une dimension aussi large, c'est-à-dire avec 23 pays, dont une douzaine dans chacun de nos états-majors, ça nécessite une coordination considérable des procédures communes qui nous ont fait travailler dans le fond des process. Et là, c'est extrêmement intéressant d'arriver à rallier tout le monde sur ces objectifs.
Et le général de division Yann Latil a également rappelé que l'opération Croix du Sud est un bel exercice de collaboration entre les forces armées des différentes nations participantes. Hier soir, le tableau était impressionnant lorsque les soldats de chaque pays ont sorti leur drapeau dans un mouvement coordonné. Parmi eux, un de nos plus proches voisins et influents dans la région et dans le monde, l'Australie. Le capitaine de vaisseau Christophe Lys, attaché défense à Paris, nous a parlé de l'importance pour la nation de participer à Croix du Sud.
Pour cet exercice-là, on a eu une centaine de soldats qui sont venus de l'Australie. Il y avait des médicales, des ingénieurs, un tas de soldats qui sont venus. C'est la première fois à Wallis et Futuna. Et c'est pour ça aussi que notre armée de l'air a participé, a assisté. Parce qu'on a eu quelques avions ici, un C-27 qui a participé pour envoyer tous les soldats en Wallis. Parce que quand même, c'est 2000 km de la Nouvelle-Calédonie, ça fait un peu loin. Mais les logistiques, en fait, sont les choses qui sont les plus difficiles quand on fait un exercice ou bien une opération HDR, quoi. Donc, pour cet exercice-là, ce qu'ils ont fait, ils ont pratiqué cet aspect de logistique. C'est important qu'ils travaillent tous ensemble, quoi, pour que nous puissions montrer une vision commune du monde qu'on veut, quoi. Il y a d'autres pays dans le monde qui ne partagent pas nos visions et notre désir d'avoir un monde qui est fondé sur des règles de droit. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les Français et aussi d'autres pays.
Ont également assisté à cette cérémonie de clôture hier soir, Alcide Ponga, président du gouvernement, Sonia Baquès, la présidente de la province sud, Véronique Roger-Lacan, ambassadrice pour la France dans le Pacifique, et Sonia Lagarde, maire de Nouméa.
Il est 7h15, on va marquer une première pause dans ce journal, à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
À vos agendas, les 3 et 4 mai pour la fête du cerf et de la crevette, venez faire de bonnes affaires. De la bonne viande, 100% locale, 100% savoureuse à prix de gros. Sautez de veau, longe de porc, cuisse de cerf, n'oubliez pas votre glacière.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La CIDEFO Week-end, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique en Australie. Le parti travailliste du Premier ministre Anthony Albanese a remporté les élections générales qui ont eu lieu hier et pour lesquelles 17 millions d'Australiens étaient appelés aux urnes. Une victoire du parti travailliste aux dépens, encore une fois, de la coalition libérale nationale conduite par le leader de l'opposition, Peter Dutton. Peter Dutton qui a d'ailleurs été battu hier dans sa propre circonscription. Correspondance, Jean-Pierre Zajac.
Très tôt hier soir, et sans attendre la proclamation de toute forme de résultat, même provisoire, Peter Dutton a téléphoné à Anthony Albanese pour le féliciter. Il a ensuite fait de même auprès d'Ali France, la candidate travailliste qu'il a battue dans sa propre circonscription. Peter Dutton a ensuite annoncé qu'il se retirait de la politique. Le parti libéral qu'il dirigeait va donc devoir se trouver un nouveau leader. De son côté, Anthony Albanese a fait une entrée triomphale au siège du Parti travailliste de Sydney, où l'attendait une foule de supporters enthousiastes. C'est avec un sens profond de responsabilité que j'accepte encore une fois de diriger le pays, a-t-il dit. « Nous sommes tous Australiens », a-t-il insisté, « et ces Australiens ont voté pour l'équité et l'opportunité pour tous », a-t-il ajouté. « Récompenser votre confiance sera le moteur de mon gouvernement chaque jour de ces 3 prochaines années », a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Venons-en à l'actualité en métropole. Les images font le tour des réseaux sociaux depuis hier. Un contrôle de police a mal tourné. Ça s'est passé à Drancy, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Un contrôle qui a mal tourné à cause d'un refus d'obtempérer. Un homme a été blessé à la jambe par le tir d'un policier. Les faits sont produits alors que les policiers intervenaient pour mettre fin à un rodéo urbain et après que ces mêmes policiers ont confisqué une moto à l'un des protagonistes, Antoine Bienveau pour Europe 1.
Il est environ 20h hier soir à proximité de la cité Youri Gagarine à Drancy lorsque les policiers interviennent pour mettre fin à ce rodéo urbain qui rassemble beaucoup de jeunes. Les fonctionnaires saisissent une moto comme pour la confisquer. Et à ce moment-là, plusieurs individus s'en prennent à eux, voulant visiblement récupérer le véhicule. Un jeune homme vêtu de rouge s'approche des policiers de façon véhémente devant un témoin qui filme la scène en arguant les forces de l'ordre. Le jeune homme en rouge entre alors physiquement en contact avec l'un des policiers qui ouvre le feu. L'homme en rouge est touché et s'écroule pendant que le policier lui chute en arrière sous les insultes répétées du même témoin qui filme toujours cette scène.
Fils de pute, va ! Nique ta mère la pute ! T'as allumé ? Nique ta mère !
Des insultes nombreuses et puis grâce à de nombreux renforts, le calme revient ensuite dans le quartier. 3 interpellations ont eu lieu selon le parquet de Bobigny qui ouvre ce soir 2 enquêtes. L'une pour violence sur les policiers et l'autre confiée à l'IGPN pour l'ouverture du feu du fonctionnaire. Le policier est blessé au dos dans sa chute et l'homme touché par les tirs sont tous les deux hors de danger.
Antoine Bienveau du service police-justice d'Europe 1. Dans l'affaire des attaques coordonnées contre des prisons et des agents pénitentiaires depuis la mi-avril, 19 personnes ont été mises en examen et incarcérées depuis le début du week-end. Les personnes mises en cause dans ces affaires, qui n'en font qu'une en fait, sont âgées de 15 à 37 ans. Cette nuit pour nous, la procureure de la République de Paris, Laure Becquio, s'est exprimée devant la presse pour faire un point sur ce dossier tentaculaire.
Sont désormais mises en examen 21 personnes suspectées d'avoir participé aux faits, mises en examen sous des qualifications en lien avec les éléments recueillis à leur encontre. Pour certains, les qualifications retenues leur rendent leur auteur passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres peines d'emprisonnement encourues délictuelles étant de 10 années. Cette procédure révèle là encore l'évolution de la criminalité organisée qui associe les profils de haut et de bas du spectre. On retrouve également le fait de recourir à des recrutements tarifés, à des prix bas, de jeunes acteurs, ce depuis la détention. Ces recrutements par les réseaux sociaux ne dissuadant pas ceux recrutés des actions les plus graves.
Alors Bécuot, la procureure de la République de Paris. L'actualité à l'étranger avec une question. La Russie a-t-elle orchestré une cyberattaque de masse pour truquer les résultats de l'élection présidentielle en Roumanie? Les Roumains sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour d'une nouvelle élection, 6 mois après l'annulation d'un premier scrutin qui s'était déroulé sur fond d'ingérence russe en faveur du candidat arrivé en tête. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Avec pour conséquence que la campagne présidentielle qui vient de se terminer en Roumanie s'est faite avec un contrôle renforcé. Forcer des publications politiques sur les réseaux sociaux. Reste que l'ombre de Moscou plane toujours sur le scrutin aujourd'hui. Fabrice Epelboin est spécialiste en cybersécurité et en usage politique des réseaux sociaux.
La Roumanie, c'est clairement une cible de choix pour la Russie d'un point de vue tactique et militaire. Si la Roumanie basculait dans une position de neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien, ça serait une immense victoire pour la Russie.
Et Moscou multiplie ses actions en ligne pour peser dans les scrutins européens.
On parle d'attaques informatiques sur typiquement les technologies qui servent à comptabiliser les votes pour le scrutin. Puis on parle de campagnes de désinformation. C'est des personnes avec des faux comptes qui vont typiquement faire des commentaires élogieux sous le candidat qui a été désigné par le Kremlin. C'est une multitude de choses qui s'apparentent à du marketing électoral, si ce n'est que c'est du marketing électoral fait par un pays étranger.
La France est aussi une cible de choix pour Moscou, estime le chercheur.
Parce que la France a pris le leadership du camp qui s'oppose désormais à la Russie, maintenant que les Américains sont en train de lâcher l'affaire.
Les autorités françaises ont d'ailleurs accusé cette semaine très officiellement les Russes d'avoir piraté la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron.
Wilfried de Villers du service international d'Europe 1, l'actualité à l'étranger. En bref, au Proche-Orient, l'ONU appelle Israël à cesser ses attaques contre la Syrie après des incursions de l'armée israélienne dans le pays. Tsahal a annoncé ces dernières heures s'être déployé dans le sud de la Syrie et se dit prête à intervenir pour protéger des villages de la communauté druze après des heurts meurtriers dans la région depuis le début de la semaine. Et puis au Vatican, les concertations se poursuivent avant le début du conclave qui se réunira pour trouver un successeur au pape François. 9e journée de congrégation générale, ces réunions de cardinaux qui se tiennent à huis clos. Deux dernières congrégations générales se dérouleront à partir de lundi. Le conclave, lui, s'ouvrira mercredi soir pour nous à la chapelle Sixtine. Il est 7h23, une dernière pause dans un instant, sport et météo.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Jusqu'au vendredi 30 mai, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs. Logez 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 30 mai à 14h, 371 francs par SMS. Ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ces restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football, avec la suite ce matin de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1. Le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, termine la saison en roue libre. Ce matin, les hommes de Luis Enrique ont concédé leur deuxième défaite de la saison en championnat, la deuxième de suite. Les Parisiens sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Une victoire qui fait bien évidemment les affaires des Alsaciens qui restent en course pour une qualification pour les compétitions européennes la saison prochaine. Ce matin, les Strasbourgeois pointent provisoirement à la 4e place du championnat, à un petit point seulement du 2e, l'OM qui jouera demain matin pour nous. Dans les autres matchs de la matinée, Toulouse s'est imposé 2-1 également sur Rennes. En ce moment, Saint-Etienne reçoit Monaco au stade Geoffroy Guichard. C'est la seconde période et les Monégasques mènent 1-0. Au chapitre sport collectif, toujours du rugby avec les premières demi-finales des Coupes d'Europe ce matin. En Coupe des Champions, champions. C'est la plus prestigieuse des coupes européennes. Northampton est la première équipe à s'être qualifiée pour la finale. Northampton qui s'est imposé 37 à 34 sur Leinster. Northampton qui connaîtra son adversaire en finale demain matin. Ce sera soit l'Union Bordeaux-Bègles, soit le Stade Toulousain. Et puis pour le challenge européen, Bath s'est qualifié ce matin également pour la finale de cette compétition. Bath qui s'est imposé 39-24 sur Édimbourg. L'autre demi-finale verra demain matin pour nous un autre choc 100% français puisque Lyon recevra le Racing 92. On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec ce week-end le Grand Prix de Miami, c'est aux États-Unis. En ce moment se déroulent les qualifications pour la course principale qui se courra demain matin pour nous. Avant cette qualif, s'est couru très tôt ce matin la course sprint de ce Grand Prix de Miami, une course qui s'est déroulée sur une piste mouillée et c'est Lando Norris au volant de sa McLaren qui s'est imposé. Il a devancé son coéquipier Oscar Piastri et la Ferrari de Lewis Hamilton. Kimi Antonelli sur Mercedes qui avait signé la pole position pour cette course sprint a finalement pris la 10e place. Une course mouvementée à cause des conditions météo. Charles Leclerc a accidenté sa Ferrari lors du tour de formation de cette course sprint.
C'est très frustrant, mais bon, à la fin, je peux seulement m'en vouloir à moi-même. La manière dont je la perds en plus, ça, c'est assez triste parce que dans une ligne droite, j'étais même pas à fond, je crois. Donc, j'attendais juste d'arriver au virage d'après et malheureusement j'ai rien pu faire, j'ai perdu complètement le contrôle de la voiture. J'ai essayé de tourner mais il n'y avait rien qui se passait, j'ai essayé de freiner mais il n'y a rien qui se passait, j'ai tout essayé mais rien n'a marché. Donc voilà.
Et ben voilà, ça va marcher beaucoup moins bien. Un mot pour finir des pilotes français. Pierre Gasly sur Alpine a pris la 11e place, Isaac Hadjar sur sa Racing Bull la 13e, juste devant la Haas d'Esteban Ocon.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Du sport mécanique également. En Calédonie, on disputait hier le premier rallye de la saison sur les pistes de Tomo Valley. À l'issue des 6 spéciales de la journée et des 3 super spéciales qui se sont courues en nocturne, c'est Kevin Bertoni au volant de sa Mitsubishi Evo 8 qui s'est imposé. Il a devancé de 43 secondes Hendrick Mahoy sur Subaru et Jérôme Martinetti sur Ford Fiesta RS5. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous, Nicolas.
Alors ce matin, même si de belles éclaircies résisteront sur la côte est en début de matinée, les nuages seront omniprésents sur le territoire. Toutefois, le temps restera sec. L'alizé de sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds sur le sud et le sud des Loyautés et de 10 nœuds environ sur les autres régions. Cet après-midi, le ciel sera souvent très nuageux, surtout par des nuages élevés, peu ou pas d'averses. Le vent de sud-est soufflera entre 20 et 25 nœuds en général, voire plus de 25 nœuds, ce sera sur le nord-ouest. Les températures maximales resteront basses pour la saison, toujours comprise entre 24 et 26 degrés.
Merci Nicolas, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. On se retrouve à 8h pour d'autres informations. Passez une très belle matinée et un très bon week-end sur l'antenne des Rares B.